8h45 sur France Culture, Hervé Gardette ce matin. Dans votre transition, vous allez nous parler de biodiversité et de parcs naturels africains.
Marseille devra encore attendre avant d'accueillir le Congrès mondial de la nature. L'événement qui est à la biodiversité, ce que sont les COP pour le climat, devait d'abord avoir lieu en juin dernier avant d'être reporté à janvier 2021 pour cause d'épidémie. On a finalement appris avant-hier que ce serait pour plus tard, on ne sait pas encore quand, en raison de la situation sanitaire. L'objectif de ce congrès est d'établir un plan mondial pour protéger et restaurer les écosystèmes, lesquels en ont bien besoin. La biodiversité est en déclin. La semaine dernière, le WWF publiait ainsi un rapport selon lequel, en près d'un demi-siècle, les populations de vertébrés auraient perdu les deux tiers de leurs effectifs. Alors la nécessité de les protéger ne se discute pas, mais comme souvent, quand une question relève de l'évidence, on finit par se focaliser sur l'objectif sans poser la question des moyens pour l'atteindre. Or, en la matière, il y aurait beaucoup à dire. Et c'est tout l'intérêt d'un des ouvrages les plus remarquables de cette rentrée, « L'invention du colonialisme vert » de Guillaume Blanc aux éditions Flammarion. Historien de l'environnement, il y décrit le processus qui a conduit à la création de ces réservoirs de biodiversité que sont les parcs nationaux africains et la façon dont ils sont gérés. « Je croyais, écrit-il, que les parcs africains étaient des espaces naturels harmonieux. J'ai découvert des territoires minés par la violence, une violence à laquelle participent indirectement les grandes organisations de protection de la nature. » Alors pour comprendre les motifs de cette accusation, il faut remonter loin en arrière lorsque s'impose une vision fantasmée de l'Afrique, vision qui a assez peu changé à vrai dire, celle d'un paradis perdu, un sanctuaire pour la faune et la flore, un monde sauvage qui aurait dû le rester s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'homme, et pas n'importe lequel, l'homme africain, considéré à tort dès le 19e siècle par les naturalistes européens comme responsable de la disparition de la forêt primaire et de certaines espèces. Conséquence, puisqu'il est une menace pour la nature, il faut l'en écarter. Une philosophie qui va s'imposer au moment de la colonisation, mais aussi accompagner le mouvement de décolonisation. Des villages entiers sont ainsi évacués pour vider les grands parcs de toute présence humaine, touristes mis à part. Alors des organisations comme le WWF, justement, ou l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, véritable, je cite, « machine à reconversion pour les administrateurs coloniaux », vont ainsi travailler main dans la main avec les nouveaux dirigeants africains. Et chacun y trouve son compte. Les défenseurs de la nature peuvent continuer à œuvrer dans ces laboratoires à ciel ouvert que sont les parcs nationaux. Quant aux pouvoirs locaux, ils prennent prétexte de ce travail de préservation pour expulser les populations les moins dociles. Chacun a besoin de l'autre pour atteindre son objectif et leur accord se fait alors sur le dos de celui qu'ils doivent tous les deux soumettre pour conserver leur pouvoir, l'habitant. Le comble, explique Guillaume Blanc, c'est que ces politiques ne sont même pas efficaces. Pire, elles aggravent parfois le problème, comme par exemple en Éthiopie, dans le parc national du Simien, créé en 1969 pour protéger une espèce endémique, le Walia ibex, le bouquetin d'Abyssinie. Cette espèce est peu chassée, ne serait-ce parce qu'une fois tuée, les bouquetins sont très difficiles à récupérer sur les pentes escarpées. Mais les populations locales, à qui on demande à l'époque de quitter les lieux, vont réagir de manière inattendue. Alors qu'elles ne chassaient pas le Walia ibex, elles se mettent à le faire, considérant que si le bouquetin disparaît de leur montagne, alors le parc national n'aura plus de raison d'être et les villageois pourront continuer à y vivre. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que les parcs nationaux ne servent à rien, ce sont des maillons essentiels de la protection de la nature, mais peut-être vaudrait-il mieux en effet, pour ne pas en exclure les humains, a fortiori ceux qui subissent la catastrophe écologique davantage qu'ils n'y participent, peut-être vaudrait-il mieux parler de protection du vivant.
Bon, en tout cas, c'est un beau paradoxe que celui que vous avez présenté, Hervé Gardette. Une réaction, Baptiste Morisot?
Oui, une réaction. C'est assez fascinant de voir l'histoire environnementale de ces mouvements tels qu'ils ont eu lieu en Afrique. J'ai pas moi encore lu le livre, mais je pense qu'il faut, pour faire justice pleinement à cette affaire, rappeler quand même que c'est aussi dans les initiatives de conservation africaine qu'est né le concept de community-based conservation, de conservation basée sur la communauté, notamment chez David Western, c'est-à-dire justement une prise de conscience très nette que toute tentative d'exclure les habitants autochtones des parcs était vouée à l'échec et était tout simplement immorale en fait. Et donc la conservation basée sur la communauté, c'est l'idée au contraire d'essayer de maintenir les habitants sur place et de les impliquer directement dans la défense de leur milieu de vie. sur certains points, en effet, en essayant de moduler leur pratique, leur mode de subsistance, lorsqu'il est trop impactant pour une forêt ou pour une savane. Mais en faisant d'eux en fait les défenseurs de leur propre milieu, et ça a quand même été mis en place notamment à mon souvenir au Masai Mara, et c'est aujourd'hui c'est je crois ce qu'on défend de mieux dans la conservation. C'est une conservation qui ne se fait pas au détriment des populations locales ou autochtones, mais au contraire qui leur propose de prendre en charge et même parfois avec leur propre discours et bien la défense de leur milieu de vie lorsque il s'agit d'en faire une réserve. Ouais. Donc ces choses ont bougé et la community-based conservation, ça a quand même maintenant plusieurs décennies. C'est important de rappeler que malgré cette histoire coloniale, il y a eu des évolutions qui dans l'histoire africaine.